Point de Mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, existe-t-il un lien entre évolution de la pensée logique des enfants de maternelle et leur comportement? C'est la question à laquelle ont répondu Hélène Durand et Véronique Marchal en réalisant leur mémoire professionnelle qui conclut ainsi leur année d'études de professeur des écoles. Ce mémoire original met en évidence le lien entre l'apprentissage des sciences et la vie en société et ceci leur a valu aujourd'hui de recevoir une mention, la mention de la Main à la Pâte 2008, Main à la Pâte qui, je le rappelle, existe depuis 1980. Et qui vise à promouvoir au sein de l'école primaire une démarche d'investigation scientifique. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous nous venez de Cannes, où vous êtes toutes les deux professeurs des écoles. Vous avez passé chacune un an auprès de classes de moyenne section de maternelle en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Première question, comment vous est venue l'idée de poser une telle problématique, à savoir, existe-t-il un lien entre pensée logique et comportement? Véronique Marchal, peut-être.
Alors, c'est une question complexe, évidemment. Nous nous la sommes posée pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, nous sommes intéressés par la pensée logique parce qu'elle est caractéristique des activités scientifiques et nous sommes toutes les deux scientifiques de formation. Ensuite, nous avons effectué l'année dernière un stage filé, c'est-à-dire que nous faisons un stage hebdomadaire et dans des écoles tout à fait similaires. Alors, à la fois par le comportement des élèves qui était très violent, nous sommes donc en ZEP, vous l'avez déjà mentionné, et également similaire parce que le niveau était identique. Nous avions toutes les deux des moyennes sections et nous avions en tant que débutantes d'énormes difficultés de gestion de classe. Alors pourquoi ? Parce que tout d'abord, nous nous imaginions que lors des regroupements, il était possible d'intéresser les élèves facilement. Grave erreur, car quand nous avons voulu essayer de leur parler, de leur raconter une histoire, nous avons constaté de violentes réactions de la part des élèves, à la fois des bousculades, mais également des morsures, et ce jusqu'au sang. Donc pour des débutantes, c'était relativement choquant. Et nous en avons discuté toutes les deux à l'IUFM.
Vous ne vous connaissiez pas alors jusqu'alors?
On se connaissait en tant que collègues.
Voilà, du covoiturage, voilà, pour aller à l'UFM ensemble, mais sans plus.
Donc, vous avez parlé ensemble de ces problèmes que vous avez rencontrés, à savoir des enfants violents qui n'arrivent pas à vivre en société, en quelque sorte.
Oui, qui n'arrivent pas à vivre en société, et essentiellement, à notre avis, parce qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer, et donc s'expriment par le geste, par la violence. Alors, nous nous sommes demandé si... la discipline que nous affectionnons le plus toutes les deux, à savoir les sciences, pouvait améliorer ce comportement, puisque, à notre sens, les sciences peuvent ouvrir les élèves vers le monde, vers la découverte du monde, les intéresser, augmenter leur curiosité et leur permettre d'acquérir un vocabulaire qui, par là même, leur permettra de communiquer différemment que par la violence. Donc on s'est lancé sur le sujet scientifique, existe-t-il une évolution de la pensée logique et du comportement des enfants à travers les activités scientifiques en maternelle.
Hélène Durand, il me semble que l'expérience que vous avez réalisée, donc toutes les deux, hein, en parallèle sur cette question, est-ce qu'un objet flotte ou est-ce qu'un objet coule, démarre à partir d'une lecture d'un livre qui vous a plu au départ,
hein. Oui, tout à fait. Alors le livre, c'est un album dans une collection qui fait beaucoup de choses très intéressantes, qui s'appelle « Le bateau de Monsieur Zouglouglou ». Alors ce livre de Didier Jeunesse, il fait énormément d'albums comme ça, qui, comme Monsieur, le bateau de Monsieur Zouglouglou, inclut des petites comptines. Et en fait, ce livre, je l'ai découvert par hasard. Il était utilisé dans la classe de ma fille qui était en moyenne section à l'époque, donc en maternelle. Et ma fille adorait ce livre qu'ils étudiaient à l'école. Elle revenait à la maison, elle chantait les comptines. Et ça a été l'occasion de faire des sciences aussi. Sa maîtresse est partie de cet album pour étudier la flottaison. Et ça a passionné ma fille qui passait son temps à jeter des objets dans l'eau à la maison. Donc moi, un peu moins ravie. Mais en tout cas, elle semblait vraiment adoré ce livre et on en a discuté et on s'est dit que ben oui, cet album serait vraiment un excellent point d'entrée pour motiver les élèves pour cet aspect scientifique de la flottaison des objets.
Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. Vous vous lancez toutes les deux, chacune respectivement dans vos classes, dans la lecture de ce livre, et vous constatez peu de réactions des élèves, parce que je suppose qu'à chaque fois, vous essayez d'anticiper les conséquences, vous leur posez des questions, à savoir alors qu'est-ce qui va se passer si tel ou tel personnage monte dans ce bateau, puisque je crois que c'est le principe, hein. Mm-hmm. Les personnages sont de plus en plus nombreux à monter dans ce bateau jusqu'à ce que le bateau coule. Alors, quelles sont leurs réactions quand vous leur posez ces questions?
Alors, c'est vrai que sur les premières séances de lecture, alors on avait comme de façon générale dans les moments de regroupement, à la fois des élèves très agités, donc comme Véronique l'expliquait tout à l'heure, qui sont capables de se mordre, voire jusqu'au sang parfois, de se tirer les cheveux, de se donner des coups de pied, et puis une partie d'élèves complètement amorphes, qui participent pas, qui s'intéressent pas, qui restent assis comme ça, complètement prostrés, qui ont quasiment pas de langage. Donc les premières séances étaient vraiment caractéristiques de ce qui se passe de façon normale dans ces regroupements, avec ces deux extrêmes de classe. Et puis donc dans les questions qu'on posait sur le concept de flottaison des objets, des réponses dont on a vraiment analysé plus tard en revenant sur la bibliographie qu'on a menée pour le mémoire, qu'elles étaient très caractéristiques de la pensée des enfants. Donc, par exemple, sur le réalisme de leur pensée, le fait de, quand un objet coule, de dire qu'il s'est noyé. Voilà, des choses comme ça, qu'on a vraiment notées et qu'on a réanalysées plus tard. Donc, peut-être on en reparlera tout à l'heure également sur les dessins des enfants, les premiers dessins. Donc, tous ces aspects, en fait, même certains dessins, ensuite, qu'on a analysés plus tard, qu'on avait vaguement regardé en taxant ces dessins de pas intéressants et qu'on a, au regard de la bibliographie, ressorti en disant « Ah oui, mais ça, c'est vraiment caractéristique de choses connues sur la pensée des enfants. » Voilà. Donc, les premières séances étaient vraiment caractéristiques avec ces deux extrêmes de classe, des enfants très agités, très violents, et puis des enfants complètement passifs. Et justement, ça a beaucoup évolué au fil des séances.
Alors justement, nous allons venir à cette évolution. Vous leur demandez, lors de ces premières séances, de réaliser deux dessins. Lorsqu'il y a, il me semble, le bateau sans la puce et le bateau avec la puce, n'est-ce pas, qui est censé donc couler. Parce que la puce devait être très lourde, je suppose. C'est une grosse puce. Au fur et à mesure des expériences, les dessins à la fin, ils semblent avoir compris. Et les dessins sont plus révélateurs et ils ont compris l'exercice. Véronique Marchal.
Oui. Ils ont compris l'exercice, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont, au cours de toutes ces semaines d'expérimentation, eu l'occasion de manipuler avec le réel. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas parlé de concepts abstraits, mais on leur a proposé de les vivre, ces concepts, à travers des jeux où ils avaient le matériel, l'eau, des objets qui flottent, des objets qui coulent. Ils avaient également l'occasion de jouer au jeu de Fort Boyard qu'on a décrit dans ce mémoire, qui consiste en fait à faire couler un petit bol qui flotte à la surface à l'aide de billes. Alors en rajoutant des billes, au fur et à mesure, le bol va couler. Celui qui fait couler le bol a perdu, donc ce jeu se joue par deux. Donc ils ont eu l'occasion de jouer, ils ont eu l'occasion d'expérimenter en donnant eux-mêmes le matériel nécessaire à l'expérimentation. Quand on leur a posé la question « Est-ce que tel objet coule ? Oui ou non ?» c'est eux qui ont dû nous dire « Voilà, ben pour le savoir, il faudra du matériel. » Et ce matériel, ça sera une bassine, ça sera de l'eau, ça sera les objets en question. Bon, ça, je le dis comme ça, mais eux nous disaient par exemple « Oui, ben il va falloir jeter la noix dans la bassine. » On a compris qu'il fallait bassine plus noix plus eau. Toutes ces expérimentations, tous ces jeux et ces occasions formidables de manipuler le réel ont permis, au final, aux élèves de mieux appréhender les concepts abstraits de flottaison et donc de mieux les dessiner, de mieux les représenter.
Pardon Hélène Durand, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rajouter quelque chose sur le jeu de Fort Boyard.
Bien sûr.
Où il y a eu, je crois, dans les deux classes, hein, moi je l'ai vécu dans ma classe, vraiment un réel apprentissage là de vocabulaire, de langage. C'est-à-dire que la motivation pour jouer et pour gagner, elle était vraiment, d'ailleurs il a fallu réguler la classe, c'était très difficile de les faire jouer deux par deux. Mais il y avait une envie de gagner et à cette occasion, ils étaient obligés de faire un discours logique, genre, du style « le ramequin a coulé, donc j'ai gagné ». tu l'as fait couler. Donc, le mot couler était bien associé avec le fait d'aller au fond, alors que les séances d'avant couler, flotter, c'était pas net si c'était en, au-dessus, à la surface de l'eau ou au fond du ramequin. Et là, en plus, il y avait une logique dans la pensée. Il a coulé, donc j'ai gagné. Et c'est vraiment venu à, par le fait de jouer, la volonté de, voilà, de gagner et de dire à l'autre, j'ai gagné et tu as perdu. Et on est à peu près persuadé que sans cette motivation liée au jeu, à la manipulation du réel, comme disait Véronique, si on avait fait ça sur simplement un livre, hein, voilà ce qui flotte, voilà ce qui coule, qu'est-ce que vous en pensez, l'acquisition du langage n'aurait pas du tout été la même.
L'appropriation, on va dire, hein, l'expérience fait que les informations rentrent mieux. Parallèlement à ces expériences qui se succèdent au cours de ces semaines, vous notez une amélioration du contact et des élèves qui arrivent à maintenir leur attention plus longtemps et un respect de l'autre.
Oui. Vraiment.
Alors, est-ce que c'est le seul fait des sciences ou est-ce que c'est parce que le fait de les impliquer dans des expériences fait qu'on arrive à canaliser leur punch, j'allais dire leur activité?
Oui. Non, ce que je pense, c'est que les sciences pour eux étaient nouveaux. Et la nouveauté excite des petits-enfants de 4 ans. Donc, quand on leur propose de but en blanc un bac avec de l'eau et des objets, la première réaction, c'est effectivement de jeter les objets dans l'eau et d'éclabousser toute la classe, ce à quoi nous nous sommes confrontés avec stupeur. Et en revanche, quand les enfants sont habitués, qu'ils ont un cadre qui est régulier, avec tout, à chaque séance, ils savent qu'ils vont avoir de l'eau, des objets à tester et des expérimentations à faire, les excitations s'apaisent.
Et on a vu même
en maternelle,
un travail collaboratif sur lors des phases où on a demandé aux enfants de nous réaliser une affiche sur quels sont les objets qui flottent, quels sont les objets qui coulent en manipulant, mais une affiche sur le groupe où ils se sont mis d'accord ensemble et sans violence sur le fait de savoir si l'objet faisait partie de ce qui flotte, ce qui coule. Ils n'étaient pas forcément d'accord tous et se sont mis d'accord sans violence à l'aide de langage pour mettre l'objet dans telle ou telle catégorie, ce qu'on n'aurait pas vu du tout quelques semaines avant.
Véronique Marchal,
oui. Ce qu'on pourrait conseiller aux professeurs des écoles qui voudraient se lancer dans ce genre de séquence flotte-coule en maternelle, c'est avant de commencer la séance, d'habituer les enfants avec le matériau qui est l'eau. À savoir qu'il faudrait prévoir dès la rentrée un coin eau où les enfants peuvent le manipuler à l'accueil, avec la TSEM pourquoi pas. Voilà, habituer l'enfant à la matière. Ensuite, quand on lancera les activités en question, la surprise ne sera plus aussi grande et les expérimentations, à mon sens, se feront dans la sérénité.
Je vais citer une partie de votre mémoire justement qui relève aussi justement de ce rapport avec ces enfants et du respect qu'ils ont envers les autres, mais peut-être aussi d'une appréciation aussi de leur propre pensée. Vous expliquez, lors de la première séance, l'hypothèse émise que les enfants avaient l'habitude de faire des exercices juste ou faux, bien, pas bien, et n'osaient pas dessiner ce qu'ils avaient dans la tête par crainte de faire mal. Mmh. Et donc, petit à petit, ils se disent qu'ils ont le droit de tester, d'essayer. Et si c'est pas bien, c'est pas grave. Donc finalement, de transgresser cet interdit en fait qu'ils ont, qu'ils avaient acquis.
D'avoir le sourire ou pas en haut de la feuille, comme chaque fois qu'on fait un exercice dans certaines maternelles, hein, pas partout, mais c'est souvent appliqué, il y a toujours sourire, le petit bonhomme content ou pas content en haut de la feuille, quoi qu'on fasse, même un dessin, il est bien ou il est pas bien. Et donc là, en l'occurrence, quand on dessine les objets, la maîtresse demande de dessiner si ça flotte ou si ça coule. Ah, si je fais pas bien, je vais pas avoir le sourire. On a peur et du coup, certains enfants ne dessinent pas du tout. Effectivement, ils ont peur de cette sanction. Je me suis trompée. Alors que, on l'a vu notamment en posant les questions. Il y a des enfants qui ont fait des dessins ou les objets pour quelqu'un qui a demandé est-ce que ça flotte, est-ce que ça coule. C'est complètement en erreur. C'est pas ça du tout. Mais si on parle avec eux, en fait, ils ont représenté, tu l'avais notamment remarqué dans ta classe, un autre plan. Au lieu de regarder le bac sur la tranche, ils l'ont regardé par-dessus. Et ils ont dessiné les objets vus de dessus. Et si on comprend ça, ils ont bien dessiné. Mm-hmm. C'est pas ce que la maîtresse attendait, ce qu'elle demandait, mais c'est leur vision.
C'est leur vision.
C'est leur vision. Et il n'y a et pas ça, de sanction, c'est faux. On, simplement, on représente ce qu'on pense. Et la maîtresse essaie de comprendre. quelle est la pensée de l'enfant.
Véronique
Marchal. Et ce que tu décris là, c'est exactement le syncrétisme que décrit Piaget dans ses recherches, à savoir que les enfants sont incapables d'associer les éléments dans leur globalité. Ils dessinent des éléments séparés, mais pas dans leur ensemble. Et nous, ce qu'on a essayé de leur faire comprendre, c'est que leurs dessins n'étaient pas des erreurs, ou alors que l'erreur était inhérente aux sciences. Et ça, vraiment, on a essayé de leur inculquer. J'espère qu'on a réussi un petit peu.
Avant d'évoquer la question des parents, vous abordez dans votre mémoire l'importance que jouent les parents lorsqu'ils sont impliqués dans la vie de leurs enfants en ce qui concerne la maternelle, et d'ailleurs aussi, je suppose, dans l'école primaire. Avant de parler de ça, une expérience que vous avez menée qui, là, leur a posé une colle, à savoir la pâte à modeler, l'expérience de la pâte à modeler et du Kinder. Donc, pour expliquer à nos auditeurs, donc il y avait deux boules de pâte à modeler, une qui n'était que de la pâte à modeler et une autre qui renfermait un Kinder. Enfin, en tout cas, on voit bien tous cette espèce d'œuf en plastique. Cette pâte à modeler renfermait ce Kinder. Et donc, bien sûr, une boule qui flotte et une autre qui ne flotte pas. Quelles ont été les réactions de vos jeunes élèves, Véronique Marchal?
Alors, beaucoup de surprises venant de leur part. Ils savaient que la pâte à modeler coulait. Ils l'avaient vue depuis plusieurs semaines et ça, c'était ancré. Tout d'un coup, ils voient de la pâte à modeler qui flotte. Alors, il y a eu des cris d'horreur. Il y a eu des cris comme « c'est magique ». Il y a eu, je ne sais pas, Hélène, tu dois avoir d'autres exemples?
Non, j'ai eu beaucoup de « c'est magique ».
Voilà.
Oh, j'ai noté également « elle flotte parce qu'elle reste en haut ».
Oui, il y a eu aussi.
Ah, oui, c'est ça.
« Elle flotte parce qu'elle reste en haut ». Oui, oui, oui.
Ça, c'est le film.
Ce qui reste très logique, somme toute. Mais...
Et la grande surprise surtout, c'est qu'ils ont essayé de se poser la question de savoir, justement, ils n'en sont pas restés. Il y a eu le « c'est magique », grande majorité. Mais ils n'en sont pas restés là. Ils ont voulu savoir pourquoi il y en a eu. Donc, un raisonnement, essayer de mettre en place un raisonnement scientifique. Pourquoi il y en a une qui flotte et pourquoi il y en a une qui coule? Le côté « c'est magique » n'a pas duré plus que quelques minutes.
Mais vous leur aviez montré que vous aviez inséré dans la
Ah non, justement, on a juste plongé deux boules de pâte à modeler a priori identiques. Et justement, pourquoi? Pourquoi il y en a une qui flotte? Pourquoi il y en a une qui coule?
Alors,
il y a
eu des hypothèses. La question, ils se la posent eux-mêmes.
C'est ça qui était
parce que
intéressant.
Nous, en général, on pose des questions. Et là, on voulait vraiment que le questionnement vienne de comme le prescrit la méthode d'investigation de la malle à pâte.
Et c'est déjà une belle victoire qu'ils se soient posé la question. Et alors, quelques séances avant de commencer tout ça, je pense qu'on aurait fait la même chose. C'est logique. Il y en a une qui flotte, une qui... Il n'y a pas de problème.
Ce serait normal. Pas posé la question.
Voilà. Alors là, j'ai eu des hypothèses. Moi, elles n'avaient pas tout à fait la même couleur. Les boules, j'avais pas assez de pâte à modeler la même couleur. Donc, c'est parce qu'elle n'est pas la même couleur.
La couleur
n'est pas la même. Et oui, pourquoi pas? Alors, on va essayer. Et eux-mêmes ont eu l'idée d'essayer de prendre d'autres eux-mêmes des bouts de pâte à modeler de couleur, de même couleur et de refaire.
Bon. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il y avait en fait une différence de masse.
Oui, pour certains, pas pour tous, il faut bien avouer.
Ils ont pesé.
Alors pour certains, il y a un tel ancrage de ce qu'ils ont dans la tête que quand ils ont mis sur les boules de pâte à modeler de masse bien différente sur les plateaux de la balance, ils voulaient absolument équilibrer la balance. Je sais que c'est les mêmes boules. Donc, elles doivent avoir la même masse. Et donc, c'est pas possible que cette balance, ils s'énervaient sur la balance pour l'équilibrer.
Notamment les élèves qui étaient souvent le plus passifs,
oui.
Qui réagissaient face à cette différence de masse.
Qui leur posait problème, mais qui les interpellait.
Pour nous, c'était une petite victoire de voir ces élèves qui passent de la passivité à l'enthousiasme, finalement.
Donc, un grand pari réussi, puisque finalement, vous avez non seulement réussi à, alors je ne sais pas si le terme de motiver est le bon, mais en tout cas, à focaliser l'attention de ces jeunes élèves sur vos expériences, et puis à intégrer dans ce groupe des élèves qui étaient peut-être en grande difficulté, et à les intégrer, et à ce qu'ils soient motivés pour réaliser ces expériences, puisque vous expliquez tout au long de votre mémoire que vous avez chacun, il me semble, un élève en difficulté, et qui finalement est tout à fait intégré dans le groupe et réalise à sa manière les expériences.
Alors, je nuancerai.
Oui, Véronique Marchal.
Parce que ces élèves en question n'ont plus adhéré totalement à l'ensemble de la démarche. Ponctuellement, on les a vus plus intéressés. Ponctuellement, on les a vus plus participer.
Mais vous pensez pas que... sur le travail écrit. Donc, sur la participation dans les activités de groupe, oui. Sur le travail écrit, peut. Plus oui. certains ont fait des choses, collé des images alors qu'ils refusaient toute participation. Je pensais notamment à un petit de la classe qui, à la moindre contrariété, se tapait la tête par terre ou bon, se mettait à crier, se prostrait dans la classe et ne participait jamais à rien. La première fois que je suis arrivée dans la classe, je lui donnais un feutre comme les autres. Il a pris, il a pété la mine. Donc, et après, rien. Et en plus, on a tendance, dans ces cas-là, à pas lui donner le feutre. Bon. Et là, il parlait jamais, cet enfant-là. Et là, justement, sur notamment le jeu de Fort Boyard, il a fait comprendre aux autres, peut-être pas avec les mêmes mots que les autres, mais il a fait comprendre qu'il avait gagné et qu'il n'était pas question qu'il participe pas à la finale. On n'allait pas le rouler dans la farine. Et lui, donc, bon, il n'a pas fait le reste du travail écrit, mais oui, vraiment, au fur et à mesure des séances, il avait envie, quoi.
En fait, c'est une question de temps pour ses élèves qui auraient peut-être plus de difficultés. C'est une question de temps, tout simplement, entre guillemets.
Je ne sais pas si c'est aussi simple. Hein. Je ne sais pas si le temps suffira. Mais en tout cas, c'est une belle victoire que de les voir comme ça s'ouvrir et communiquer avec les autres. Et de fait, on a noté moins de violence dans la classe, dans les échanges, dans les regroupements. Alors après, vous posiez la question tout à l'heure, savoir si c'est entièrement lié à la démarche. Malheureusement, pour être honnête, c'est impossible à dire. Il faudrait tester d'autres paramètres avec d'autres classes, faire une étude à plus grande échelle pour pouvoir conclure. Nous, on a noté une évolution du langage, de la pensée logique et une amélioration du comportement. Tout ça allait dans le même sens de façon vraiment significative. Et avec des résultats très convergents entre les deux classes et avec une façon de mener les séances différente. On a chacune notre personnalité. D'ailleurs, on a remarqué des fois vraiment l'influence de notre façon de faire. De conclure que ça vient vraiment des sciences, dans l'état de nos recherches, c'est pas possible.
Oui.
Mais on espère que, et on y croit.
Dernière question, puisque nous arrivons bien sûr à la fin de notre émission, sur les parents. Vous expliquez donc à la fin, hein, dans votre conclusion de votre mémoire, que vous êtes convaincu que l'implication des parents dans les projets de classe peut avoir un impact sur la motivation des élèves, et plus particulièrement à l'école maternelle. Vous l'avez déjà remarqué, je suppose, entre le moment où vous êtes arrivé dans la classe et le moment où vous êtes parti de la classe, qu'il y avait une implication peut-être différente des parents, et de ce fait, des réactions différentes des élèves. Véronique Marchal.
Les parents se sont sentis impliqués, je pense, parce que nous avons communiqué sur ce que nous faisions en classe, à travers des affichages, à travers des photos.
Parlez des cahiers de vie, alors est-ce que c'est ça?
Nous, on n'a pas mis en place un cahier de vie parce qu'on était en stage filé, mais ça peut se faire de cette façon-là. Ce qu'on a choisi de faire, c'est d'afficher des photos photos que vous avez dans le mémoire, on les avait affichées.
Avec des explications
à l'entrée de la classe. Et les parents, chaque semaine, attendaient la photo du jour.
Et c'est vrai que les enfants...
Et en parler à la maison.
Expliquer, expérimenter à la maison. Montrer les photos. Quand ils arrivaient, là, c'était le vendredi matin, avec les parents à l'accueil de la classe. Ils expliquaient ce qu'ils avaient fait et ils demandaient d'acheter des Kinder pour faire la même chose. Et donc, les parents, oui,
ils étaient vraiment impliqués.
Ouais, ils étaient vraiment impliqués. Ouais. Et les enfants étaient fiers de montrer ce qu'ils faisaient à l'école.
Ça nous demande de faire un effort de communication réellement et que l'éducation des enfants soit un trio entre l'école, l'élève et les parents.
Et vous parlez d'ailleurs de culture commune, il me semble.
Oui.
La culture commune
passe par la communication.
Eh bien, merci de nous avoir rendu visite. Bien sûr, nous adressons nos félicitations pour cette mention du prix Main à la pâte 2008. Nous invitons nos auditeurs à écouter également l'intervention de Sandrine Guillaumin, qui a reçu le premier prix ex aequo de la Main à la pâte, consacré également aux maternelles. Merci de nous avoir rendu une visite. Encore une nouvelle fois, merci. Et puis, peut-être à bientôt pour un nouveau prix, pourquoi pas.
Merci.
Merci. Merci, au revoir.
Au revoir.